Classeco, l'aéroport de l'économie, de l'innovation et de l'entrepreneuriat.
Nous sommes de retour dans ce studio pour poursuivre notre échange avec notre passager. Pour commencer notre échange, parce que c'est le moment où on reçoit un entrepreneur dans ce programme qui vient nous parler de sa vision de l'entrepreneuriat, de son parcours, de ses produits. Et on n'oublie pas la partie argent, parce que bien entendu, on parle des prix des produits. Qui est justement notre passager du jour? Je vous laisse le découvrir.
Notre passager du jour est un ingénieur agronome. Elle milite pour une vie saine et la promotion du bien-être à tous les âges. Pour participer à cela, elle conçoit des tisanes et des sirops. Elle peut également vous accompagner dans la mise en place de votre projet agricole. Là, c'est quoi le temps de recevoir Jean-Christelle Mbimnanga, promotrice de Mbibiosard. Bienvenue à bord.
Le passager du jour dans Classeco.
On va donc parler de, je ne sais pas si vous dites d'agriculture, d'agronomie, mais quand les pros sont là, ils vont expliquer les termes pour nous. Mais en tout cas, on reçoit aujourd'hui Jeanne-Christelle Mbinanga. Bonjour.
Bonjour Nadia.
Bienvenue chez Volume 3.
Merci Nadia.
Ah, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour parler les femmes qui vont au champ. C'est vrai que bon, ça, ce n'est plus les histoires de l'époque. Dans la nouvelle génération aussi, on y retourne un tout petit peu. Donc vous êtes ingénieur agronome.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette direction-là quand tout le monde veut avoir les ongles bien limés pour aller au bureau?
C'est vrai qu'à la base, j'ai voulu faire médecine, mais je ne supportais pas la vue du sang.
Et l'envie de faire médecine sortait d'où quand on sait que...
Non, le papa voulait que je fasse médecine. Ah, la famille voulait que je fasse médecine, mais je n'étais pas passionnée par ça. Et puis, je suis rentrée, je me suis rendue compte qu'étant toute petite, quand on coupait toujours les cannes à sucre à la maison, c'était toujours moi qui rentrais les replanter. J'ai dit pourquoi pas, je vais aller faire agriculture. Et j'ai pris mon dossier pour la médecine, je suis allée déposer ça pour faire agriculture et puis j'ai fait...
Vous êtes renseignée toute seule sur les écoles, comment ça se passait? Papa a quand même aidé, même si finalement c'était pas la médecine.
Non, j'avais un ami à mon papa, son petit frère, qui a fait l'école d'agriculture, qui m'a bien aidé, qui m'a bien renseigné. Voilà ce qu'il faut connaître pour les écoles d'agriculture. Voilà ce qu'il faut savoir. Et puis, je me suis lancée dans ça.
Justement, quand on veut aller à l'école d'agriculture, on se dit, est-ce qu'on a une idée de tout ce qu'on va y apprendre ou on se dit que non, on va juste aller m'apprendre comment est-ce qu'on cultive? Entre ce à quoi vous pensiez et la réalité de ces études-là, qu'est-ce qu'il y a eu de différent?
Gros déphasage, parce que les gens pensent que l'agriculture, c'est seulement s'aimer, récolter. Ça n'a rien à voir. Nous faisons des mathématiques, nous faisons de la chimie, de l'anglais, du français. Nous faisons même de la construction rurale parce qu'il est important parfois pour mettre en place les fermes, de savoir peut-être la direction des vents, comment se fait une fondation, comment doit se tourner le béton. Nous faisons tout cela. Donc les gens ont toujours une idée de se dire que l'agriculture c'est seulement production et récolte et tout ce qui va avec. Et puis...
Ah, justement, je vous entends parler de ferme. Est-ce que ça veut dire que quand on est... Parce que la plupart du temps, avec les ingénieurs agronomes, on entend production animale et production végétale. Et nous, quand on fait l'agriculture, c'est censé... Les animaux arrivent à quel moment dans ce parcours-là?
Effectivement. Par exemple, moi, je suis ingénieur en production végétale et en agro-socio-économie. Il faut savoir que jusqu'au parcours de deuxième année, on fait tourner tout ce mélangé, que ce soit production animale, production végétale, agro-socio-économie, agribusiness. Et c'est à partir de la troisième année qu'on choisit sa spécialisation. Donc moi, j'ai choisi de faire production végétale. Et bien après, je suis rentrée encore faire agro-socio-économie.
D'accord. Maintenant, production végétale et transformation agroalimentaire. Ça, c'est quoi? C'est après les études ou bien c'est pendant qu'on apprend la production végétale qu'on apprend également la transformation?
Ok. On a souvent des ateliers où on nous apprend à produire, à transformer. Mais il faut savoir que moi, particulièrement, j'ai toujours été passionnée de la transformation. Et ça, je n'ai pas appris à l'école, mais je me suis fait déjà former moi-même avec des recherches. Et avec le temps, je suis allée faire une petite formation pour renforcer mes capacités.
D'accord. Et la formation vous a mené aussi vers le secteur des cosmétiques?
Non, il faut noter déjà que moi, je suis dans l'agriculture biologique. Mm-hmm. Donc, je prône tout ce qui est préservation de l'environnement, préservation du climat et tout. Et j'ai toujours pensé que tout ce qui était bien, c'était bien pour la peau. Déjà, je ne suis pas contre le njansa, comme on dit, mais j'ai eu des problèmes particuliers de peau depuis toute petite, ce qui m'a poussé à me dire, mais chaque fois, je dépensais l'argent et je n'arrivais pas à trouver de solution. Et je me suis dit, pourquoi pas me pencher sur cela, puisqu'on parlait des bienfaits des huiles naturelles, comme telles que le beurre de cacao, l'huile de coco. Je me suis dit, on a tout cela chez nous, pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on a chez nous pour nos peaux à nous noires. Mm-hmm. Et c'est de là que vient l'idée de dire, je vais me concentrer sur la cosmétique. Mais après, je me dis, bon, tiens, tu produis. Et la peau ne passe pas que par ce qu'on met sur la peau, mais parce qu'on consomme, pardon. Et si tu consommes quelque chose qui n'est pas bien pour toi, ça va automatiquement influencer négativement même ton état de santé, même ta peau. Mm-hmm. Et c'est de là où part tout cela, la transformation agroalimentaire, les sirops et les tisanes, ainsi que la poudre de gingembre.
Ouais. Je veux qu'on revienne à cette histoire d'agriculture biologique, parce que l'histoire de bio aujourd'hui, tout le monde utilise le bio à tort et à travers. Pour vous qui êtes du métier et qui savez, que c'est d'ailleurs votre spécialité, c'est quoi concrètement, quels sont les éléments qui font qu'une agriculture est dite biologique?
Ok. Déjà, il faut savoir que le bio n'est pas que parce qu'on utilise l'engrais biologique ou l'insecticide bio. Il y a aussi des techniques de production biologique. Déjà, vous n'êtes pas toujours obligé d'utiliser les engrais. Vous pouvez faire une bonne association agricole. Exemple, je prends l'exemple du manioc avec l'arachide. L'arachide est déjà une légumineuse qui produit l'azote naturel au manioc. Donc, vous n'avez pas toujours besoin d'utiliser que ce soit un fongicide ou un engrais. Mais déjà, dès que vous mettez déjà en place un bon système de l'agroécologie, vous êtes déjà sûr d'avoir un bon rendement. Or, des personnes maintenant utilisent même des pesticides à tort et à travers sans toutefois être renseignées et ne cherchent pas toujours les avis des experts disant que nous sommes chers. Mais sauf que la non-qualité coûte 4 fois le prix de la qualité. Et vous allez perdre de l'argent et recommencer, alors que si vous aviez pris un expert du domaine comme je suis, c'est que vous aurez déjà gagné en temps et en argent et vous aurez votre rendement.
Donc, ce n'est pas seulement les engrais. Je veux qu'on revienne aux semences aussi, parce qu'aujourd'hui, on parle des OGM et tout ça. Est-ce que la base, c'est d'avoir également une semence qui soit pas OGM pour que le produit fini soit l'agriculture biologique, ou le fait juste qu'on ait eu des techniques naturelles ou qu'on ait, je sais pas, associé les plantes en fonction des besoins du sol, ça fait que même si la semence était... je sais pas s'il faut utiliser l'expression faussée dès le départ, on reste quand même dans un produit qui est bio.
Non, il faudrait déjà que la semence sélectionnée soit aussi issue de l'agriculture biologique, parce que il y a ces résidus de pesticides qui sont très résistants. Donc déjà de la production. Et il faut aussi rassurer que on n'est pas des voisins aux alentours qui utilisent des produits chimiques, parce que ça influence la production et la qualité des produits à la fin.
D'accord. Est-ce que justement l'agriculture biologique, on la contrôle pas mieux si on fait l'agriculture sous serre?
Bon, moi, je vois des gens faire la production sur serre. Je ne suis pas contre eux, mais moi, à mon humble avis, moi, je parle de moi, je ne parle pas des autres. Je pense que le Cameroun n'a pas encore atteint le niveau de se dire qu'on va produire en serre, alors qu'on n'arrive pas déjà à satisfaire l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. Vous voyez dans les marchés actuellement, les denrées alimentaires sont extrêmement chères. Pourquoi aller faire la production sur serre alors que nous n'arrivons même pas déjà à se nourrir? On fait la production, c'est la production de, je vais dire, de luxe. Mmh. Pour moi, je parle de moi, oui. Je ne parle pas des autres.
D'accord. Bon,
c'est mon avis.
Ok. Maintenant, quand on décide de faire comme tout le monde, d'avoir sa petite plantation, on fait comment? On empêche les voisins de mettre les pesticides, ou bien il y a une moyen de protéger sa parcelle ou ses produits des pesticides que le voisin aura forcément besoin de mettre sur son sol si lui ne fait pas de l'agriculture biologique?
Ok. Il faut savoir que lors de la production, pour ceux qui ne savent pas, on peut faire un périmètre de sécurité. Ça veut dire aux abords de tout autour du champ, on peut laisser 3 mètres de sécurité pour déjà permettre que cela ne se passe. Mais nous savons aussi qu'il y a les transports par les vents. Donc c'est aussi bon de sensibiliser. Déjà, ce que moi je fais à mon niveau, c'est beaucoup plus de la sensibilisation et de la formation. De se dire que bon, voisin, tiens, si je te donne cette recette de fertilisants et d'insecticides, est-ce que tu me promets de ne plus utiliser cela pour que moi aussi je puisse avoir une production biologique et chacun est content? Mmh. Donc c'est ce qu'on peut faire, mais c'est déjà, il y a pas, c'est pas facile, parce que avec le transport des vents, c'est pas évident. Il y a toujours ces résidus là qui vont venir se déposer et puis on n'aura pas toujours le rendu souhaité.
Comment on fait donc pour être sûr qu'on aura, que son agriculture sera vraiment biologique? Si on ne peut pas contrôler les voisins, pour vous, sous serre, c'est un peu le luxe. Comment est-ce que vous faites pour être sûr que les produits que vous mettez, ça reste du bio?
Okay. Comme je vous ai dit, je sensibilise, je forme et surtout je me rassure de produits où je sais qu'il n'y a pas d'autres personnes qui produisent avec les engrais chimiques. Mm-hmm. C'est ce que je fais à mon niveau.
D'accord. Dans votre parcours également, j'ai vu qu'il y avait un peu d'économie et sociologie rurale.
Oui.
La sociologie rurale, l'économie et la sociologie rurale, c'est quand on applique, ça donne quoi?
En fait, c'est tout ce qui renvoie à la rédaction des business plans, des plans d'affaires, tout ce qui renvoie à les plans de développement locaux. Vous voyez, dans les villages, on part recenser, on part voir quel est le problème majoritaire dans une communauté. Ça dépend, on peut créer un projet social ou un projet économique. Mm-hmm. Donc, ça dépend vraiment de l'aspect dans lequel on veut écrire.
Donc, on ne peut pas avoir ces 100 mètres carrés, on décide qu'on va mettre le maïs simplement. Les histoires de business plan dans l'agriculture, moi, je suis un peu perdue. Est-ce qu'il faut forcément passer par ces canaux-là ou non, on peut juste avoir sa petite parcelle et puis cultiver ce qu'on veut?
Ok, je vais répondre en bonne camerounaise. Je vais vous poser une question. Est-ce que, Nadine, si vous faites juste le champ et puis vous semez votre maïs, vous allez savoir que vous allez gagner comment? Si vous n'avez pas déjà à la base un document qui vous permet de savoir que voilà les dépenses que j'aurais effectuées, voilà ce que j'envisage faire avec ce maïs à la fin, voilà ce que je compte récolter et puis je vends. Ça veut dire que vous allez juste s'aimer et puis vous ne savez pas combien vous allez dépenser effectivement, combien, comment ça va se passer, qu'est-ce que vous allez utiliser à la fin pour avoir un bon rendement et vous allez gagner. Pourtant, vous ne connaissez même pas ce que vous avez dépensé à la base pour pouvoir produire. Donc, vous voyez que c'est important.
À la base, c'était seulement la terre, ne ment pas. C'était seulement faire le champ, récolter, vendre aussi un peu. Les histoires de business plan, où il y a beaucoup d'économies déjà dans le champ, là, on va se décourager. Mais en tout cas, ça veut dire que tout ce que vous transformez, ça veut dire que vous cultivez tout ou bien il y a quand même, vous travaillez avec des coopératives ou d'autres agriculteurs?
Oui, je ne travaille pas seul. Je prends ailleurs chez des producteurs que je sais qu'ils font aussi des produits bio. Mm-hmm. C'est-à-dire, je prends chez les producteurs, je sais qu'eux aussi, ils produisent, ils prennent leurs matières premières sans utiliser les pesticides chimiques.
D'accord.
Mais comme ce n'est pas toujours évident, parce que parfois aussi les producteurs mentent. Mm-hmm. Parfois les producteurs mentent. Donc c'est l'une des raisons qui m'a poussée justement à créer la tisane détox. Mm-hmm. Parce que quand vous voyez, on consomme des produits remplis de pesticides chimiques, vous voyez, on a les cancers maintenant, les cancers de la prostate, des cancers de sang, ainsi de suite. Donc cette tisane détox nous aide justement à détoxifier notre organisme. C'est pas un médicament, pas dire que c'est un médicament, mais c'est juste sauver, dire quoi. C'est complémentaire à ce que nous consommons pour pouvoir nettoyer notre organisme et ne pas être sujet tout le temps aux maladies, tout le temps avec des. Vous voyez aussi quand vous allez dans les marchés, les tomates avec les couleurs vertes, bleues, ce sont les pesticides chimiques. Et parfois les agriculteurs ne laissent pas le temps de latence. Que le produit, temps de latence, ça veut dire quoi? Le temps que le pesticide ait déjà perdu tout son pouvoir chimique pour pouvoir consommer, ils mettent cela sur le marché. Donc, nos tisanes aident aussi à détoxifier notre organisme.
Et ensuite, on voit la tomate bleue, on fuit, on te la met, mais pas dans mon plastique. On va aller. Que non, si c'est vert, ne mets pas. On va faire comment?
C'est ça le problème. C'est pour ça que je parle beaucoup de sensibilisation. Mm-hmm. Faudrait vraiment que l'on se penche sur ce point-là de sensibiliser. À l'époque, nous ne voyons pas trop ces maladies. Vous avez dit un mot à l'entame en disant les femmes ne cultivaient pas. Mais les femmes ont toujours cultivé. Les femmes ont toujours été celles qui sont à la base de la production agricole. Vous allez vous rendre compte que les hommes étaient beaucoup plus basés sur la pêche, l'artisanat, la chasse. Mais c'est les femmes qui ont toujours et toujours cultivé. Donc, c'est beaucoup de sensibiliser, de se dire que, voilà, si on met en place un mécanisme de suivi, de dire, produisez comme ça et faites comme ça. Par exemple, dans mon parcours, j'ai travaillé à Bafsam, on le faisait déjà dans toute la région de l'Ouest. On allait sensibiliser les femmes, les vieilles personnes, de ne plus utiliser les pesticides chimiques, mais de se pencher vers l'agroécologie.
Mmh. D'accord. Justement, quelles sont les matières premières que vous cultivez et qu'est-ce que vous prenez chez d'autres agriculteurs?
Par exemple, je cultive le gingembre, mm-hmm. Je cultive le curcuma.
D'accord.
Que je ne transforme pas forcément pour l'agroalimentaire toujours, mais aussi pour les cosmétiques, comme je vous ai dit, j'utilise les produits naturels. Je cultive, bon, pas toujours aussi ce que je ramène, le manioc, le plantain. Comme je vous ai dit, il faut d'abord se nourrir.
Mm-hmm. Oui. Donc, il y a un peu le commerce aussi à côté.
Bien sûr, bien évidemment, toute base de business, c'est se faire de l'argent. Donc, on fait le business pour avoir de l'argent. Donc, je cultive aussi, je compte mettre déjà en place quelques arbres fruitiers aussi. Mm-hmm. Oui. Mais il faut noter que les autres produits, comme je vous ai dit, ne sont pas pris chez nous.
Non, quoi, le Foléré, c'est quoi, c'est nécessairement le Nord?
Oui, le Nord, le Bitacola aussi, ça vient un peu de partout.
Donc, il n'y a pas vraiment de bassin de production dédié. Dès que vous trouvez un producteur et que vous êtes un tant soit peu rassuré sur la qualité de sa production, ça veut dire que vous n'avez pas encore le niveau pour leur imposer un cahier de charge et dire que si vous voulez que j'achète votre production, il faut que ce soit si ça. Justement, en dehors de ce que vous produisez, est-ce qu'il y a un calendrier pour les achats ou bien c'est en fonction des besoins de la production que vous approvisionnez chez les partenaires?
Ok. Pour le moment, je prends encore selon les besoins parce que je n'ai pas encore la capacité financière de prendre et de stocker. C'est vrai qu'il y a d'autres produits que je stocke, mais je n'ai pas encore la grande capacité financière de pouvoir le faire. Et il faut noter que dans le futur, si j'ai la capacité financière adéquate, je pourrais faire déjà la production de toute ma matière première. Parce que j'ai déjà toute la technique qu'il faut. Maintenant, c'est les moyens financiers qui parfois ne sont pas toujours à présent pour pouvoir mettre en place tout ce que je fais.
D'accord, les moyens financiers ne sont peut-être pas encore présents, mais il y a déjà quand même quelques produits qui sont présents et qui sont disponibles sur le marché. On parle de sirop, on parle de tisane, des poudres de gingembre. Aussi, on va revenir en détail sur ces différents ingrédients dans la deuxième partie parce qu'on va marquer la pause de cette émission. Quand on revient, on vous parle concrètement des produits et de leur prix. À tout de suite.
Le passager du jour dans Classeco. Plus besoin de radio seulement. Tu peux continuer d'écouter ton émission préférée via l'application Volume 3 Cameroun. Volume 3 Cameroun. Retrouve la vibe sur ton téléphone via nos différents comptes de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X et TikTok. Volume 3 Cameroun. Classeco, l'aéroport de l'économie, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Le passager du jour dans Classeco.
Et nous sommes de retour dans le studio pour cette deuxième et dernière partie de notre entretien avec notre passagère du jour, Jeanne-Christelle Bidanga, promotrice de Bibio. Ça, on a compris depuis le début que c'est pas le bio pour dire le bio, c'est le bio parce que c'est bio, parce qu'il y a l'agriculture biologique derrière le projet et qu'elle essaye même en se fournissant chez les voisins de s'assurer qu'ils font un peu semblant. Je suis pas sûre que son micro soit ouvert. Donc, dans cette deuxième partie, on va parler de tous les produits qui existent. Je sais qu'on a quoi? Trois catégories. C'est quoi? Les tisanes, les sirops et cosmétiques.
Naturel.
Non, tout naturel. Quand on dit bio, on doit encore ajouter naturel.
La précision en vaut la peine.
D'accord. On commence par les sirops.
D'accord.
Il y en a combien?
Il y a quatre saveurs de sirop. Nous avons le sirop de... Il faut déjà savoir que le nom commercial de notre sirop, c'est Elia Sirop. Elia Sirop. Nous faisons le sirop saveur... le sirop à base de citron. Le sirop d'oseille, communément appelé Foléré, comme on dit au quartier. Le sirop de gingembre, communément appelé le ginja. Et le sirop de petite cola qui est le Bitacola.
Bon, et le sirop d'oseille, on sait que ça, c'est si on veut boire un peu le Foléré. Le sirop de citron, il y a ceux qui aiment l'été, peut-être une boisson au citron. Le gingembre, quoi, on connaît. Vraiment, quelle idée d'aller faire le sirop avec le Bitacola.
Il faut noter déjà que le sirop, le Bitacola, déjà, c'est un tonifiant et un coupe-faim naturel. Et bien que ce n'est pas, comment je vais dire, un médicament, mais vous n'allez pas quand même aller dans le supermarché, comme on s'est dit, je vais aller chercher, bien aller en route là, chercher le Bitacola. Quand vous êtes fatigué ici au bureau, je prends exemple sur vous. Vous allez prendre votre sirop de Bitacola, consommer et dire, ok, j'aurai plus de tonus.
C'est seulement les gens qui ont mal à l'estomac qui vont souvent manger le Bitacola. Du coup, ils ne connaissent pas la partie de la fatigue.
Bon, il y a aussi les hommes. Les hommes, il a des propriétés aphrodisiaques. Les hommes qui aiment souvent aller prendre n'importe quoi là dans la rue, déjà, on va leur dire qu'il y a le Elia Sirop de Bitacola chez Bibio et puis ils vont consommer cela, même dans les apéritifs, dans leurs soirées et tout. Et là, ils vont consommer sainement.
D'accord.
Bon, ils auront ce sirop pour leur plaisir et ils vont consommer sainement.
On sait que le Bitacola n'est pas sucré. Quand ça devient sirop, là, ça veut dire que ça devient sucré ou bien il y a encore l'amertume.
Il a un goût sucré, amer, saveur, avec des petites saveurs à côté.
Vraiment, ça c'est pour ceux qui aiment les goûts compliqués. Sucré, amer, comment? Ouais, on a le ndolé pour ça un peu.
Non, le ndolé, il est amer quand il n'est pas encore cuisiné. Mais le bitacola, contrairement à ce que vous le pensez, généralement ceux qui le prennent chez moi, ils prennent cela pour mélanger avec du whisky, ceux qui ont beaucoup les apéros et autres là. Ils prennent cela et puis ils mélangent, ils mettent ça dans leur whisky.
Chacun qui connaît son cocktail. Donc, pour chacun de ces produits-là, ils sont disponibles sous quel conditionnement? C'est uniquement la... C'est quoi? C'est 33 centilitres?
350 millilitres, 100 millilitres, oui. Et nous sommes en train de travailler sur les 750 millilitres. Ils seront disponibles, je pense, par la grâce de Dieu, si l'infographe est assez rapide, d'ici la fin du mois d'octobre, nous aurons déjà nos sirops aussi de 750 millilitres.
Bon, maintenant, est-ce que comme c'est 350 millilitres, c'est le même prix pour chaque sirop ou bien en fonction de la matière première?
Les saveurs, selon les goûts, mm-hmm. Le sirop d'oseille et de citron, il est à 1500.
Hein?
Oui.
Quand c'est comme ça, la boîte là, on dilue ça dans 5 dans litres.
Non,
comme c'est 350, mais on peut dire dans 5 litres d'eau.
Comme
ça
je vous ai dit, ça se consomme selon la convenance, selon le goût de chacun. Donc, ceux qui veulent consommer très sucré, et notons que c'est pas seulement pour consommer, vous pouvez utiliser ça même pour faire vos salades de fruits à la maison. Vous pouvez utiliser cela pour faire vos gâteaux, vos pâtisseries. Mm-hmm. Donc, ça ne se limite pas seulement à consommer comme un jus.
On peut imbiber les gâteaux avec.
Oui.
OK.
Pour donner un peu de goût citronné, mm-hmm. de goût gingembre, même à vos salades de fruits. Oui, vous pouvez aussi ajouter cela.
Donc, on a quoi? Citron et oseille, 1500.
Oui. Et bitacola et gingembre, c'est 2500.
Ah! Écrit seulement comme la mère au quartier qui a dit que c'est
notons que les prix, le gingembre actuellement sur le marché, malheureusement, je sais pas pourquoi c'est flambé des prix, mais il est extrêmement cher.
Donc, quand le prix du gingembre va baisser, le prix du sirop là va baisser aussi,
bien évidemment.
Ah
bien
non, évidemment. C'est mieux de poser la question,
oui, c'est important.
D'accord. Donc, après, on a les tisanes.
Oui,
dans les tisanes, il y a quoi?
Il y a la poudre de gingembre.
Mm-hmm.
Oui, la poudre de gingembre. Et je vais dire, c'est le tout premier produit que j'ai commencé à faire.
Oui.
Oui, et il est disponible sur le format de 100 grammes.
D'accord.
Je viens de changer le packaging parce qu'il était dans les papiers craft.
Oui.
Maintenant, je le mets dans les boîtes pour un conditionnement, je dirais, assez efficace. Parce
bon,
que
quand je vois ça, ce n'est pas le gingembre qui est souvent flou là. Ça veut dire qu'on n'a pas écrasé, on n'est pas écrasé avec la peau, ou bien parce que j'ai souvent l'impression que les autres ont dit que pour garder, pour prêter, on écrase avec la peau.
Ok, merci Nadine, parce que je vois déjà que vous appréciez déjà la couleur de mon gingembre depuis que je suis arrivée là. Vous parlez de ça.
Oui, c'est très clair. Oui. Il y a le gingembre flou là.
Oui, le gingembre là, je l'ai juste, comment dire, je fais la production selon les normes agroalimentaires. Donc, il a été produit bien évidemment avec la peau, mais sauf qu'il a Il y a vraiment tout un travail à l'amont.
Okay.
Vous-même, il y a tout un travail fait à l'amont pour qu'il soit fait selon les normes agroalimentaires.
D'accord.
Donc, vous êtes sûr que si vous
consommez... Non, il y a la poudre, mais c'est pas flou.
C'est pas flou. Vous me l'avez dit. C'est pas flou.
D'accord. Donc, c'est uniquement le conditionnement 100 grammes.
Oui. Bon, je le fais aussi. Il y a des personnes qui prennent chez moi pour aller revendre, pour aller reconditionner.
OK.
Mais là, c'est en fonction des saisons. Et puis, je fais 1 kg, 2 okay. kg, dépendamment de la période de production aussi.
Ok, donc si vous voulez revendre le ginger, comment dire, au quartier, sans travailler, oui, la poudre,
vous pouvez m'appeler.
Il y a le fournisseur. On va donner le numéro tout à l'heure. Donc, quand d'accord. c'est en 100 grammes, 100 grammes, ça coûte combien?
100 grammes, c'est 2500.
Ah! Quand le prix du ginger va baisser, ça fait que 100 grammes, ça sera 500 même. Comme
vous
ça.
Serez la première à être informée.
C'est 2500 sur le ginger. Comment? Bon, on a quoi d'autre comme tisane?
Tout à l'heure, vous avez dit que le gingembre est très propre.
Mm-hmm.
Vous-même, vous voyez que pour que ce soit propre comme ça et pas flou comme ceux des autres, il faut un travail. Et comme on dit, avant de produire, il faut toujours calculer ses coûts et pour pouvoir revendre et gagner quelque chose.
Mm-hmm.
Oui. Et sur les tisanes, il y a la tisane détox. Malheureusement, je ne suis pas venue avec, comme je vous ai dit, je suis en train de travailler le packaging, donc mm-hmm. qui sera disponible d'ici la fin
Mais
du mois.
Mais c'est combien quand même? C'est quel conditionnement?
C'est 20 infusettes.
Ok.
20 infusettes de 2 grammes.
Mm-hmm.
Dans son carton, il va coûter 1500.
1500.
Oui.
OK. Il y a une autre tisane?
Non, c'est tout.
D'accord. Et dans la famille des produits cosmétiques, bon, les cosmétiques sont vendus. Déjà, est-ce que les tisanes, c'est aussi Elia?
Non, les tisanes, c'est Kef Tisane. Kef.
Kef.
Oui, Kef.
Oh.
Kef Tisane. Oh. K-E-V-E. Kef Tisane.
D'accord.
Oui.
Ok. Maintenant, dans la famille des cosmétiques, les cosmétiques, c'est sous quelle appellation aussi?
C'est Cristabel.
D'accord.
La gamme cosmétique, c'est Cristabel.
Ok. Et dans la gamme cosmétique, qu'est-ce qu'on a?
Nous avons un lait, bon, je vais dire une huile naturelle pour le corps.
D'accord.
Une huile visage.
Ok.
Une huile anti-cerne.
Mm-hmm.
Un savon naturel gommant.
D'accord.
Et un gommage.
Ah, ah, s'il y a déjà le savon gommant, le gommage, en gros, ça peut faire quoi?
Le gommage a son rôle et le savon a son rôle. Déjà, il faut noter que le savon de la gamme Cristabel enlève même les accrochants-dents.
Okay.
Les choses qui poussent sur la peau, les boutons de barbe, des boutons de rasage. Et il n'est pas seulement utilisé, comme je vous ai dit, le gommage, généralement, c'est beaucoup plus les femmes. Bon, les hommes aussi peuvent se gommer, mais beaucoup plus les femmes, parce que parfois les peaux mortes s'accumulent sur la peau. Et il est important de se gommer la peau pour enlever ces peaux mortes-là et laisser pénétrer les produits qui vont entrer et être efficaces.
D'accord.
Pour notre peau.
Ok. Niveau prix?
Toute la gamme, toute la gamme coûte 15 000 francs.
15 000. Bon, si on va acheter au détail, le savon, c'est combien comme ça? 500?
2000.
Ok.
Le savon, c'est 2000.
Le savon, c'est 2000. Le gommage?
Le gommage, c'est 4000.
L'anti-cène?
L'huile anti-cène, c'est 2000.
2000. L'huile de visage?
3000.
Ah, l'huile de visage, 3000. Oui. Et pour le corps?
5000.
Oui. 5000, là, c'est combien? 500
millis. 250 millis. Comme je reviens, Nadine, vous savez à combien on vend 1 kg de beurre de cacao?
J'achète ça au...
Voilà. Actuellement, le kilogramme de fèves de cacao seul coûte 5200 francs.
Mm-hmm.
Donc, si pour avoir 1 kg d'huile de cacao, il faut 30 kg de fèves, faites le ratio. Et vous allez comprendre pourquoi nous...
Je ne veux pas calculer. Mais ne calcule rien. Moi, écrit, c'est marrant. Comme nous tous au quartier, sur les prix. Donc, la gamme complète,
c'est 15 000 francs. Oui.
Maintenant, pour les produits agroalimentaires et les produits cosmétiques, où est-ce qu'on les achète?
Pour le moment, nous fonctionnons encore avec...
Comment livraison.
Mais nous sommes aussi en train de vouloir travailler avec des commerciaux.
Mm-hmm.
Des commerciaux qui seront disponibles dans des points stratégiques. Et je pense qu'on va communiquer par rapport à ça.
Mm-hmm.
Donc, nous sommes en train de vouloir effectuer un recrutement des commerciaux qui seront placés justement à des points stratégiques des carrefours que vous empruntez chaque matin ou chaque soir en rentrant. Vous pouvez forcément les trouver là-bas pour le moment.
D'accord.
Donc, il y a pour la boutique, ça va venir.
Ok.
Et on va étape par étape.
La gamme de produits cosmétiques, elle s'adresse à quelqu'un qui a des problèmes, les gens qui ont des problèmes de peau en particulier, ou bien non, c'est pour tout le monde?
La gamme cosmétique est adressée aux enfants à partir de 6 mois. De 0 à 6 mois, on ne peut pas utiliser, mais de 6 mois jusqu'aux personnes âgées, on peut utiliser. Comme je vous l'ai dit, il est naturel, il n'a pas d'effet négatif sur la peau. Il est adressé aux personnes qui voudraient voir leur peau saine, avoir une belle peau. Et comme je disais tantôt, je ne suis pas contre le Johnson, mais je suis contre les personnes qui utilisent des produits chimiques qui, à la longue, pourraient causer des problèmes de santé sur leur peau. Donc, il est important de noter que même ces personnes-là pourraient utiliser ces produits-là pour avoir un rendu plus efficace sur le long terme.
D'accord. Et le numéro pour les commandes éventuellement?
Ok, pour le numéro orange, c'est le 695 04
oui.
96 22.
D'accord.
Et le numéro MTN,
c'est
le 670
oui.
58 41 82. Et il y a aussi ma page Facebook, Bibiosage, mais sur TikTok aussi.
Voilà, pour ceux que ça intéresse, j'espère que vous avez noté les numéros. Ne venez pas me demander après, parce que vous êtes toujours comme ça. Quand on parle, vous n'écoutez pas. Après, vous venez écrire une box pour demander les numéros. C'est vrai qu'on vous les envoie toujours, mais il y a également la page sur les réseaux sociaux. Justement, avec tout ça, tout ce que vous faites en termes de transformation, de suivi agricole, est-ce que vous avez encore le temps d'accompagner les autres dans je ne sais pas s'il faut dire, la mise en place de leur projet agricole?
Bien évidemment, Nadine. Donc, pour toutes ces personnes qui sont intéressées, la campagne agricole approche. Déjà, c'est le moment de choisir le site adéquat pour mettre en place les parcelles, de faire le défrichage et tout ce qui va avec. Donc, je suis disponible pour le faire.
C'est quoi comme type d'accompagnement? Si on veut quoi concrètement, il faut vous contacter.
Ok, ça dépend.
Vous aider à trouver les champs.
Il y a même ces personnes qui n'ont pas de parcelle et qui me contactent, qui disent « je veux faire le champ, je n'ai rien, je n'ai que l'argent, je les accompagne ». Il y a des personnes qui disent « j'ai le champ, j'ai mes équipes, Je veux juste que tu les formes et que tu viennes regarder, faire un diagnostic, je le fais. Mm-hmm. Il y a des personnes qui me disent, je veux juste que tu fasses la mise en place et tu me laisses gérer le reste, je le fais.
Okay.
Donc, ça dépend vraiment de... C'était toute catégorie.
Et au niveau tarif, c'est comment?
Non.
Ou c'est gré à gré?
C'est négociable. C'est négociable, donc...
Donc, si j'ai 1000 francs, ça peut marcher.
Ce qui est sûr, on va s'entendre. Donc, si quelqu'un est intéressé à faire un projet agricole, on a quand même contacté et puis on va trouver un terrain d'entente.
Ah, c'est toujours les mêmes numéros qu'on a, qu'on a donné tout à l'heure. Il n'y a pas de limite de territoire, même si c'est à Kousséri qui veut aller faire
même
le champ.
Si,
là.
Même si c'est à Kousséri, nos équipes se déplacent.
D'accord. Ok. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas seul à le faire. Ils doivent pas s'attendre à ce que ce soit toujours vous.
Oui, bon, je dirais que je suis là pour superviser, mais nous avons des équipes déjà mises en place qui ne sont peut-être pas là tous les jours, mais ce sont des, comment on dit, je les appelle quand il y a un travail à faire et puis, mais ce qui est sûr, ils me verront parce qu'il faudrait toujours que je m'assure de la qualité du travail, peu importe comment on a négocié nos prêts.
Ok. Oui. J'ai vu également que vous participez au projet Munja du FEGEM.
Oui, oui.
Qu'est-ce qui vous a décidé à postuler pour être de cette aventure-là?
Ok, j'ai vu un projet... J'ai vu une offre de formation. Moi, je me dis, on n'est jamais assez formé. Il faut toujours travailler ses capacités. Il ne faut pas se dire, je connais, on ne connaît pas. Mm-hmm. Parce qu'il y a des notions que je suis en train d'apprendre là-bas que je ne pouvais imaginer que je ne connaissais pas. J'ai fait l'école, je connais les projets, mais je n'avais jamais pu, par exemple, faire une différence entre ce qu'on appelait une gestion de projet et gestion d'entreprise. Mm-hmm. Et c'est une notion, par exemple, que j'ai pu apprendre là-bas. Donc, je dirais qu'il ne faut pas se limiter en se disant que je connais déjà, je ne veux que l'argent. L'argent viendra après quand tu seras assez compétent. Mm-hmm. Avant, je disais, je veux l'argent. Aujourd'hui, je me dis, avec mes compétences, je n'ai même pas besoin, parfois, c'est des gens qui me recommandent, par exemple, pour les projets agricoles. Mm-hmm. C'est généralement des personnes qui recommandent que non, j'ai travaillé avec cette dame, tu peux l'appeler et puis elle va bien faire ton travail. Mm-hmm. Donc, je me fais former et puis je sais, par la suite, on verra ce qui va se passer.
D'accord.
Pour le moment, nous sommes sous le volet formation.
Mm-hmm. Mm-hmm. Mais pour ça que c'est quoi? Dès le premier aussi, vous serez avec l'UNFPA et l'OAPI.
Oui,
à...
C'est du côté d'Aqua Palace.
Oui. Oui, c'est là, c'est les femmes et l'agro-business.
Oui, les femmes et l'agro-business.
Quoi, c'est apprendre quoi, propriété intellectuelle, comment est-ce qu'on se vend et tout ça.
Oui, comment est-ce qu'on se vend et comment est-ce qu'on protège sa marque, comment on protège son nom commercial. C'est voilà quelque chose que je connaissais pas et je l'espère d'ici mercredi, je serai assez capacité pour aussi pouvoir faire cela. Et comme je dis tantôt, on apprend, mais nous ne sommes pas les experts du domaine. Mm-hmm. Ça veut dire que ce n'est pas parce que je vais aller apprendre cela que je n'irai pas chercher l'expert du domaine pour dire, je veux qu'on m'accompagne dans ce sens pour faire telle chose. Mm-hmm. C'est ce que nous avons souvent comme difficulté, nous les entrepreneurs, on veut tout faire. Or, on ne peut pas tout faire. Il faut se dire que j'ai quelques notions pour qu'on ne puisse pas me voler, mais je vais voir un spécialiste du domaine pour me faire mieux accompagner.
D'accord. On espère que toute cette série de formations-là va véritablement aider à la construction et à l'agrandissement de cette entreprise entre agroalimentaire et cosmétique. On espère également que vous allez accompagner beaucoup d'autres dans l'installation de leurs projets agricoles et que les vôtres vont également continuer à se développer. Merci beaucoup, Jeanne-Christelle, d'avoir fait le déplacement.
Merci, Nadine. Merci à vous aussi. Merci à tous les auditeurs.
Classico, l'aéroport de l'économie, de l'innovation et de l'entrepreneuriat.